d'ailleurs par une anecdote sympa pour faire sourire, on va commencer à plonger directement dans la parole de Dieu. Et je voudrais lire avec vous donc dans Matthieu chapitre 15, versets 21 à 29. Et merci Seigneur pour cette précieuse parole que tu lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Mes amis, je vous encourage à lire tous les jours les Écritures, à vous laisser imprégner par cette parole. Elle est bonne pour vous, elle est bonne pour vous. On en a besoin et Dieu nous l'a donnée. Alors, lisons notre texte. Donc, dans Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 29. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Il lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Et mes amis, ce n'est pas simplement l'écriture qui est inspirée de Dieu, mais il y a aussi des hommes qui ont écrit eux-mêmes, qui sont inspirés par le Saint. Ce n'est pas par une volonté d'homme, la parole n'a jamais été apportée, la prophétie n'a jamais été. Ah, Pierre dans sa première écriture, c'est poussé par le Saint-Esprit, comme on parlait. Donc ce texte est aussi inspiré pour chacun d'entre nous. Le titre que j'aimerais donner à ce passage, c'est « Les voies de Dieu pour vous faire grandir ma foi ». Voies de Dieu. Alors, on va être bons élèves, on va essayer de voir dans ce texte, au travers de trois choses, vraiment ce que dit ce texte pour nous, mais avant, il nous faut faire un petit travail ensemble. Donc, le plan que je vous propose est le suivant. Le premier, c'est qu'on va simplement ensemble observer ce que dit le texte. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? Qu'est-ce qui est écrit? Quels sont les mots qui sont employés? Etc. Et puis, dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ensemble ce que signifie ce texte. Donc, ça veut dire qu'il va falloir l'interpréter. Et pour pouvoir bien l'interpréter, il va falloir bien sûr bien l'observer. Et puis, la dernière chose que nous ferons ensemble, et c'est la chose la plus importante, ça va être quel parallèle et quelles applications chacune de nous. C'est ça qui nous intéresse, n'est-ce pas? Alors, on va commencer par observer le texte. Et je vous propose donc de suivre avec moi dans vos Bibles. La première chose qu'il faut faire quand on a un texte comme celui-là, c'est bien sûr regarder le contexte. C'est impératif. Et pour regarder le contexte, il faut regarder le contexte immédiat et le contexte plus large. Quel est le contexte de notre passage? Eh bien, il faut remonter déjà au chapitre 14, dans les versets 13 à 21. On voit que Jésus vient de multiplier les pains pour une foule, je pense, 5000 hommes dans les environs du lac. Et puis à partir du verset 22, on voit qu'il va obliger ses disciples, n'est-ce pas, à monter dans la barque, passer à l'autre bord, pendant que lui va prier sur la montagne, verset 23. Et c'est là que prendra place tout cet épisode où Jésus va à leur rencontre en marchant sur les eaux. Et la barque, verset 34, verset 14, voyons qu'ensuite elle accoste, ça, dans le pays de Nézareth. C'est important parce que cela fera, en souci, verset 21. Et là, verset 35 du chapitre 14, suivez bien, Jésus ne passe pas inaperçu. La foule arrive et le Seigneur va prendre du temps pour guérir les uns les autres. Et puis, au chapitre 15, débute par les pharisiens qui prennent prendre à partie Jésus, apparemment, ils sont descendus de Jérusalem pour statuer sur le cas Jésus même. Et c'est à cette occasion que le Seigneur va dénoncer leur état intérieur. Verset 8. Le peuple, n'est-ce pas à mon ordre des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est aussi à cette occasion que le Seigneur va dénoncer une véritable souillure. Et tout avant tout. Et nous arrivons au passage qui nous intéresse, au verset 21. Jésus est donc dans le pays de Génézareth, à l'ouest de la mer de Galilée. Et il décide de partir et de se retirer à 50 km au nord-ouest de cette contrée, donc dans une contrée païenne, à Tyr et Sidon, nous est-il dit au verset 1. Pourquoi est-ce que Jésus part? Pourquoi est-ce que Jésus a besoin de se retrouver peut-être seul, besoin de repos? Point d'interrogation, on ne sait pas, ce n'est pas dit. Est-ce qu'il a besoin de faire le point sur son ministère? Besoin de s'isoler? Sans doute. Parce que le passage parallèle dans Marc, chapitre 7, verset 24, nous dit qu'il entra dans une maison en ne désirant que personne ne le sache. Mais une chose est sûre, parce que nous le savons par les Écritures, c'est que Jésus ne fait pas ce qui lui passe par la tête. C'est que Jésus est envoyé par son Père dans cette contrée, certainement pour rencontrer cette femme. Rappelez-vous ce que dit l'évangile de Jean, que le Fils ne fait rien de lui-même. Il fait que ce qu'il doit faire au Père. Et de la même façon que Jésus a été envoyé par son Père pour visiter la femme samaritaine dans Jean 4, nous pouvons dire avec certitude que le Seigneur est envoyé pour rencontrer cette femme syrophénicienne ou cananéenne. Ceci semble être confirmé, d'ailleurs, par le fait que, juste après cette rencontre, regardez, verset 29, Jésus quitte ses lieux et revient, il retourne, donc, à la mer de Galilée. C'est donc dans cette contrée païenne que cette femme, qui a entendu parler de Jésus, et ça il faut s'en souvenir, cela nous est dit dans Marc, chapitre 7, verset 25, va lui apporter tout son désespoir concernant sa fille. Et cruellement, un démon. Et d'emblée, quand on lit notre texte, je pense que vous avez été frappé comme moi par le fait que Jésus se révèle sous une apparence dure. Dureté apparente de Jésus à l'égard de cette femme. Mais est-ce là le Jésus doux et humble de cœur auquel nous sommes prêts? Où est le Jésus ému de compassion quand il voit des foules? Être ému de compassion pour cette pauvre femme. Quelques versets après, regardez au verset 32, nous retrouvons ce Jésus ému de compassion pour cette foule. Et là, nous avons un Jésus qui semble bizarre, quelque chose que nous ne comprenons pas. Je vous ferai remarquer 6 obstacles que cette femme est confrontée. Premier obstacle, d'abord c'est une femme, attention. À cette époque, être une femme, c'était être d'un rang inférieur. Elle n'avait pas droit au chapitre. Deuxièmement, c'est une femme cananéenne. Et rappelez-vous que les Cananéens étaient bien habitants, placés sous une malédiction sérieuse. Que B avait prononcé cette malédiction dans le chapitre 25, maudit, soit Canaan. Troisième obstacle, cette femme a une fille. Mais cette fille, elle n'est pas simplement malade, handicapée ou quoi. Non, je veux dire, c'est sérieux, elle est cruellement. Littéralement, méchamment, pareil. Quatrième obstacle, verset 23, Jésus ne lui répond pas un mot. C'est étonnant, ce n'est pas son habitude. Quand quelqu'un vient à lui et s'approche de lui avec un besoin. Mais là, il le fait. Pourquoi? Certains ont considéré qu'il y avait un obstacle supplémentaire par le fait que les disciples viennent eux-mêmes au verset 23 en disant avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous ». Oui, mais le mot « renvoyer » peut être aussi traduit par « délier », par « relâcher ». Donc la pensée, ce serait plutôt que les disciples disent « relâche-la, libère-la, accorde-lui ce qu'elle a besoin ». Pourquoi? Parce qu'elle crie derrière nous. Donc, effectivement dire que vraiment c'est un obstacle. En tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est que les disciples interviennent pour arrêter cette perturbation au plus vite, car elle crie derrière nous. Ça, nous sommes certains. Cinquième obstacle, suite à l'intervention des disciples, le Seigneur oppose un nouveau refus à cette femme. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues. Israël. Alors, il est vrai que plus tôt, lorsque le Seigneur avait envoyé ses disciples en champ de mission, il leur avait dit, n'allez pas chez les païens, chez les Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est vrai. Mais, néanmoins, rappelez-vous quand même que ça n'a pas empêché Jésus de répondre à la foi des païens lors de son ministère terrestre. Par exemple, Jésus a répondu à la foi des centurions pour guérir son serviteur qui était paralytique. Et puis, sixième obstacle que je voudrais mentionner, c'est que, après que la femme lui ait dit, verset 25, « Seigneur, secours-moi », Jésus va lui faire une réponse déroutante. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Il assimile cette femme à un petit chien. Le terme « chien » est quand même un terme de mépris. Pas des juifs, alors païens. Nous sommes apparemment dans l'incorrection, pour ne pas dire vocation. Néanmoins, ces refus et ces obstacles successifs ne découragent pas cette femme. Et je voudrais vous faire remarquer avec lesquelles cette femme, premièrement, elle se place sur le terrain de la compassion du Seigneur. Parce qu'elle dit elle-même au verset 22, regardez, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Alors, c'est difficile de tirer un argument à propos du mot « Seigneur », parce que selon le contexte, soit c'est un terme de respect, soit c'est un terme qu'elle reconnaît, qu'elle accepte la seigneurie de Jésus-Christ. Donc de dire là où elle en est à ce niveau-là. Mais par contre, ce que nous pouvons dire, c'est que le fait qu'elle mentionne que Jésus, là, cela signifie qu'elle reconnaît que Jésus est le Messie. Ça, c'est important. Ça confirme par que fait 25 ou qu'elle a entendu parler de Jésus. Deuxième chose que cette femme fait, elle accepte les refus répétés de Jésus et elle accepte même d'être traitée de petit chien. Franchement, elle aurait pu rouer dans les brancards et dire trop c'est trop, moi je m'en vais, si tu veux pas de moi, je vais ailleurs. On voit qu'elle ne réagit pas comme ça. Elle accepte, quelque part, l'humiliation. Il n'y a pas de révolte chez elle. Troisième chose qu'on remarque chez cette femme, elle s'accroche à ce qu'elle sait. Jésus est le Messie de David. Et elle persévère dans sa requête, jusqu'au bout. Et la quatrième chose que nous pouvons remarquer, c'est que cette femme manifeste une intelligence peu commune. Regardez ce qu'elle va dire lorsque Jésus va lui dire « Il n'est pas bien de prendre, verset 26, le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle prend le Seigneur au mot, n'est-ce pas ? Et elle accepte de faire partie de ces petits chiens. Et elle réclame la part des petits chiens, c'est-à-dire des miettes. Et elle reconnaît que les miettes, même si elle les reçoit, sont suffisantes pour que sa femme, pour que sa fille soit guérie. Et là, c'est intéressant parce que ça nous rappelle le centurion, aussi romain, dans Matthieu chapitre 8, verset 8, un petit peu plus haut, qui dira au Seigneur, « Dis un mot, une parole, et mon serviteur sera guéri. » Et là, le lecteur se retrouve devant un paradoxe dont les disciples sont témoins. Quel est le paradoxe soulevé? Peu de temps avant, le Seigneur a multiplié les pains pour nourrir une foule au bas mot de 15 000 personnes, et peut-être plus. Et il y a eu 12 paniers de rames qui est là, disponible. Et le Seigneur ne voudrait pas donner quelques miettes à cette femme? Le paradoxe est quand même là sous nos yeux, n'est-ce pas? La réponse du Seigneur va être éloquente, verset 28. « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et littéralement, c'est « ô femme, une marque d'émotion de la part du Seigneur. Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Alors, maintenant que nous avons observé le texte, on va passer à la deuxième partie et on va observer, on va tenter de comprendre la signification de ce que le texte nous dit. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus connaît le cœur de chacun et de chacune. Ce n'est pas la première fois que Jésus provoque, dans un premier temps, ses interlocuteurs. Dans l'épisode qui précède, de la multiplication des pains, nous en avons déjà un exemple. Verset 15, les disciples vont s'approcher, chapitre 14, « Renvoie la foule, dit-il, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Mais Jésus répond à ses disciples, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur, vous-même, à manger. » Ah bon ? Avec 5 pains et 2 poissons ? Une provocation, n'est-ce pas ? Ceci, certainement, nous est confirmé dans Jean, chapitre 6, verset 5, qui est le passage parallèle où le Seigneur va dire à Philippe d'aller acheter des pains pour nourrir cette foule. Et il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour nourrir cette foule ?» Il disait cela pour l'éprouver, parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Que cherche à faire Jésus avec les personnes qui viennent à son contact? Que cherche-t-il à faire, au fond? Dans tous les contacts que Jésus a avec les hommes et les femmes, Jésus cherche à faire accroître leur confiance en lui. Par exemple, souvenez-vous dans Jean 9, avec l'aveugle-né. Il était guéri par Jésus, mais il ne savait pas qui c'était. L'aveugle, il ne cherche, ne retrouve pas. Il savait qu'il parle de Jésus, l'homme. Après, quand les pharisiens lui posent la question, il dit « Oui, c'est un prophète ». Mais quand Jésus le rencontre, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Au chef de la synagogue, venu demander de l'aide à Jésus pour sa fille gravement malade, dans Marc, chapitre 5, verset 36, et puis les personnes qui viennent lui dire « Ta fille est morte, n'importune plus le maître !» Jésus lui répond quoi ? Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et puis je mentionnerai encore un dernier exemple. Aux disciples qui sont pris dans la tempête, sur le lac, Jésus, une fois après avoir calmé la tempête, que va-t-il dire ? Où est votre foi ? Où est votre foi ? Constamment, le Seigneur cherche à susciter la foi en lui des hommes et des femmes qui sont à son contact. Et Jésus dira d'ailleurs dans Jean chapitre 6, verset 29, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Pourrait-il en être autrement avec cette femme cananéenne ? Certainement pas. Le but du Seigneur est toujours le même, développer la foi en lui. Et c'est à quoi nous assistons au travers de cette dureté apparente du Seigneur. Jésus utilise une pédagogie indirecte pour pousser cette femme à aller plus loin dans sa foi. Et cela va devenir un exemple pour les disciples qui sont témoins de la scène. Avec nos yeux extérieurs, on a l'impression que c'est trop. Elle ne va pas supporter. C'est refus sur refus, c'est problème sur problème. Il l'envoie, il ne lui répond pas, ou il la traite de chien. On dit, mais elle va craquer cette femme. Non, elle ne craque pas. Le texte est là pour nous le prouver. Et le Seigneur sait jusqu'où il peut aller. Il le fait avec tact, avec amour, et conduit évidemment par son Père. Jésus sait ce qu'il fait avec cette femme. Il ne se trompe pas. Cette sorte de « duplicité », entre guillemets, dont fait preuve le Seigneur, est assez proche de celle dont Joseph a utilisé avec ses frères. Rappelez-vous dans Genèse 43 à 45. Rappelez-vous comment Joseph se cache derrière un premier ministre sévère, impitoyable. Il va lui-même provoquer une aventure rocambolesque avec cette affaire de coupe qu'il place dans le sac de Benjamin. Il fait croire que c'est lui le voleur, ils reviennent. Enfin, c'est un truc incroyable. Mais souvenez-vous comment les frères, au travers de toutes ces injustices répétées, de toutes ces épreuves, mûrissent dans leur cœur et disent « Mais qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» et finalement réalisent leur péché. Souvenez-vous comment Judas est prêt à être esclave à la place de Benjamin. Souvenez-vous aussi que derrière ce personnage apparemment dur, qu'est Joseph, que joue Joseph, c'est un homme qui se précipite dans la chambre pour pleurer. Souvenez-vous aussi comment il consolera ses frères en leur montrant comment Dieu lui-même était souverain dans tout ce qui s'est passé. Souvenez-vous comment il dira « C'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Eh bien, comme Joseph, le Seigneur use d'une apparente sévérité. Mais comme Joseph, il n'a pas voulu la conserver un instant de plus qu'il n'est nécessaire. Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Tout ce que je viens de dire n'est juste qu'une préparation au point le plus important que je veux aborder avec vous maintenant et le plus intéressant pour nous tous, moi le premier et pour vous. Quel parallèle et application pouvons-nous faire de cet épisode dans nos vies? Nous allons en mentionner quatre. Le premier. Première application. Cette femme n'a pas choisi d'être femme. Cette femme n'a pas choisi d'être cananéenne. Cette femme n'a pas choisi d'avoir une fille méchamment démonisée. Mais, sans se révolter, elle choisit de littéralement assiéger celui dont elle a entendu parler, Jésus le Messie. Elle connaît relativement peu de choses sur lui, mais elle ne va pas lui lâcher. Elle va continuer à persévérer, croire en celui en qui elle veut croire, jusqu'au bout, jusqu'à l'exaucement de sa requête. Et mes amis, nous n'avons pas choisi non plus le lourd héritage qui pèse sur nos vies et sur nos épaules, le fait que nous soyons des pécheurs à cause de la désobéissance de nos premiers parents. Nous ne choisissons pas non plus toutes les épreuves que nous avons, que vous avez, que j'ai. Il y a certaines qu'on a provoquées par notre folie et nos péchés. Mais il y en a d'autres, on n'y est pour rien. Il y en a d'autres, c'est parce que vos parents étaient comme ça, qu'ils vous ont transmis quelque chose. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas là le problème. Nous pouvons aussi choisir d'assiéger le trône de la grâce, d'assiéger celui en qui nous avons cru et en qui nous voulons croire. Pensez à ce verset dans Matthieu chapitre 7, verset 7. « Demandez, dit le Seigneur, et l'on vous donnera. Frappez, et l'on vous ouvrira. Cherchez, et vous trouverez. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et puis je pense aussi dans Lamentations chapitre 3, verset 25, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Psaume 149, verset 7. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit le Seigneur dans Jean chapitre 6, verset 37. Donc la première application est toute simple, mes amis. Choisissons donc de nous tourner en tout temps vers lui, et particulièrement quand nous sommes assiégés par des épreuves, des difficultés, ou simplement par des frustrations de la vie quotidienne. Dieu est bon, mes amis. C'est ça la réalité, c'est que Dieu est bon. Deuxième application. Alors que cette femme essuie des refus successifs, on en a vu un certain nombre, refus successifs à sa requête, elle ne va pas s'avouer vaincue, mais elle va répondre à deux reprises par des petits mots intéressants qui vont faire toute la différence. Et ces deux petits mots, ce sont des « mais ». Mais. Regardez. Versets 24 et 25. Alors que le Seigneur vient de lui dire qu'il n'a pas été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, verset 24, nous lisons verset 25, « Mais elle vient, elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. » Et puis, alors que le Seigneur vient de dire, verset 26, qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, la femme reprend et dit, verset 27, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Bel exemple, mes amis, pour nous. Au sein de nos circonstances adverses, de nos frustrations, de nos problèmes et de nos soucis, de notre découragement, ou même au sein des silences de Dieu, parfois, est-ce qu'il y a le « mais » de la foi? Est-ce qu'il y a le « mais » de la persévérance? Est-ce qu'il y a le « mais » de la prière? Ou est-ce qu'il n'y a pas de « mais » du tout? Et je considère que « ah ben c'est comme ça ». Non, c'est pas comme ça. On n'a pas un Dieu comme ça. Dieu se révèle d'une autre manière. Dieu veut être invoqué. Invoquons-le. Troisième application. Les épreuves de cette femme ont très clairement été utilisées par le Seigneur, et vous le voyez dans son texte. Utilisées par le Seigneur pour l'attirer à lui. Nous voyons comment cette femme a grandi dans sa foi au travers des refus successifs qu'elle a essuyés. Mais si nous regardons bien un petit peu ce qui se passe avec cette femme, si cette femme n'avait pas eu cette fille méchamment démonisée, littéralement, comme il est dit, elle ne se serait peut-être sans doute pas approchée du Seigneur. Vous êtes d'accord ? Moi-même, je suis un enfant de parents divorcés. Et franchement, j'ai cherché pendant un certain nombre d'années le sens à ma vie. Et je me souviens quand j'étais gamin et que je faisais n'importe quoi, j'étais livré à moi-même, finalement je pleurais tout seul dans ma chambre, je me disais, mais si c'est ça la vie, ça vaut pas la peine d'être vécu. Et le Seigneur a utilisé tout ce marasme intérieur, finalement, pour qu'au moment où j'ai entendu l'évangile, j'ai dit, c'est ça qu'il me faut. Le Seigneur, au travers de toutes ces années, avait préparé mon cœur à être réceptif. Mais comment l'avait-il préparé ? Au travers des choses où tout allait bien ? Non, au travers des difficultés, des problèmes, des épreuves que je n'avais pas choisies. Mais avec du recul, je dis merci Seigneur. Je crois qu'il y a un frère dans l'assistance, je ne sais pas qui, qui a remercié Dieu, en tout cas qui a remercié Dieu pour ses épreuves, en soulignant que hein, sur ce qu'il faisait et qu'il les utilisait. C'est très juste. Dieu utilise, mes amis, nos épreuves pour nous attirer à lui. Si nous n'avions pas d'épreuves, nous ne prierions pas, mes amis. C'est la réalité. Nous penserions que nous n'avons pas besoin d'un sauveur. Si nous n'avions pas d'épreuves, nous ne réclamerions pas la sagesse dont nous avons besoin. Nous ne développerions pas ni la patience, ni la persévérance. En un mot, nous ne grandirions pas dans la foi. Acceptons l'école que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. L'épreuve produit quelque chose que la facilité ne produit pas. C'est l'épître de Jacques, c'est pas qui nous dit cela, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, écrira-t-il dans Jacques chapitre 1, verset 3. Et c'est vrai, et c'est vrai. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas simplement les bonnes, je dirais surtout, pas sur les difficultés. Et oui, tout ça, ça concourt à notre vie. Et puis, je termine par une dernière application. La quatrième sera la suivante. Avec des yeux extérieurs, quand nous lisons le texte un peu rapidement, on se dit, franchement, ça va loin quand même. Elle essuie des échecs successifs, répétés, elle va craquer, elle va pas tenir cette femme, elle va claquer la porte, elle va s'en aller. Non, elle ne le fait pas. On voit qu'elle persévère. Le Seigneur connaît son cœur. Et on voit que sa foi s'affermit au fur et à mesure qu'elle passe les tests. C'est intéressant. Et finalement, elle obtient ce qu'elle voulait. Qu'il te soit fait selon ta foi. De même, mes amis, je crois que l'application pour nous, c'est n'empruntons pas cette voie, ce langage du « Seigneur, c'est trop pour moi ». Non, c'est pas trop. C'est pas trop, mon frère, ma sœur, ce par quoi tu passes. Parce que ce par quoi tu passes, ce par quoi je passe, le Seigneur le sait et le Seigneur le contrôle. Parce que le Seigneur en est absolument souverain. Et le Seigneur veut l'utiliser. Il veut l'utiliser à fond pour ton bien spirituel. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et avec la tentation, préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous supportiez. 1 Corinthiens chapitre 10. Et c'est vrai, c'est Dieu contrôle ce qui se passe dans vous. Gloire à Dieu pour ça. Nous avons un Dieu merveilleux, infiniment grand, infiniment saint. Conclusion. Notre Dieu est trop bon avec chacun d'entre nous. Avec du recul, quand nous regarderons dans le rétroviseur, quand nous serons dans la gloire, auprès de Dieu, nous dirons, Seigneur, franchement, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce par quoi tu as permis. Acceptons les voies de Dieu pour nous faire grandir dans la foi. choisissons de lui faire confiance. Et mes amis, c'est un choix. Dieu nous a donné une volonté. Choisissons de lui faire confiance, même si nous ne voyons pas. Et croyons qu'il aura le dernier mot. Choisissons d'assiéger le trône de la grâce et d'emprunter la voie de la persévérance. Et quand nous sommes confrontés au silence de Dieu, aux situations que nous n'aimons pas, réagissons par ce « mais » de la foi. Oui, c'est vrai, Seigneur, ce par quoi je passe, c'est dur. Je ne comprends pas, mais je proclame une autre réalité, la réalité des promesses éternelles de Dieu à mon égard. Acceptons ce que le Seigneur permet dans nos vies pour développer notre attachement à lui. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, dira l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Et ce n'est pas pour rien si Pierre, dans son épître au chapitre 1, verset 1, verset 6 et 7, parle de l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, etc., qui a pour résultat la gloire, la louange et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mes amis, quelle grâce d'avoir un Dieu comme notre Dieu. Je vous encourage tous les jours à lire les Écritures, à l'aimer, à vous y attacher, à chercher la face de Dieu et dire « Seigneur, franchement, je veux te servir. Je veux te servir, tu mérites d'être servi. Tu es un Dieu bon. Et Dieu est bon, il a été bon avec cette femme syrophénicienne. Il sera bon aussi et il est bon avec chacun d'entre nous. » Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage et vous aide dans votre marche avec lui. Merci pour votre écoute. Je voudrais terminer par la prière. Merci, notre Dieu, pour tout ton amour envers chacun d'entre nous. Merci pour tes voix à notre égard, pour nous faire grandir dans la foi. Merci pour tout ce que tu permets dans chacune de nos vies, dans ma vie. Seigneur, aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à proclamer que tu es sur le trône, que tu contrôles toutes choses. Aide-nous à bien réagir. Aide-nous à ne pas dire « c'est trop ». Aide-nous à placer ce « mais » de la foi. Aide-nous à regarder à toi. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous t'adorons et nous t'apportons toute notre reconnaissance. Béni sois-tu au nom du Seigneur Jésus. Amen.